En direct jusqu'à 20h, tous les soirs, un invité face à trois grandes signatures d'Europe 1. Et ce soir, c'est Benjamin Stora, historien et président du Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Bonsoir Benjamin Stora.
Bonsoir.
Je vous présente nos trois grandes voix du soir, Arlette Chabot, Olivier Duhamel et le retour de Philippe Gildas. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Benjamin Stora, on a envie de votre regard d'historien sur ce qui se passe en ce moment, cette vague d'immigration avec un rythme qui atteint jusqu'à 2000 immigrés qui arrivent en Allemagne chaque jour en ce moment. Angela Merkel a dit ces derniers jours, et c'était frappant comme déclaration, qu'elle a prévenu ses compatriotes que l'Allemagne allait profondément changer. Est-ce que vous êtes d'accord en ce qui concerne l'Allemagne ? Est-ce qu'on pourrait élargir ? Est-ce que l'Europe changera après cette vague d'immigration ?
Vous savez, on change toujours. Hein. L'histoire est faite perpétuellement de changements. Hein. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas l'Europe du 19e siècle, bien entendu. La France d'aujourd'hui n'est pas la France, par exemple, qui a été celle de la Révolution française ou celle de la Troisième République. C'est ce qui fait précisément tout le sel de l'histoire. C'est cette fabrication perpétuelle qui construit et qui fabrique le récit national. C'est pas la fixité, c'est pas les choses qui sont figées pour toute éternité, ça n'existe pas, bien entendu. Donc l'Europe peut-être changera, mais dans quel sens, personne ne peut le dire pour l'instant.
On ne peut pas dire que l'Allemagne va plus changer que la France si l'Allemagne accueille 600 000, 800 000, 1 million de réfugiés dans les 2-3 ans qui viennent, et nous 50, 100 000 ?
Non, parce que l'Allemagne a été peu habituée, à la différence de la France, là on rentre directement dans le comparatisme historique, l'Allemagne a été peu habituée à des migrations en flot continu comme la France l'a été par contre, surtout en provenance de ses anciennes colonies depuis longtemps maintenant. La France connaît des poussées migratoires sur la durée, de manière continue. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne qui a connu, disons, une sorte de montagne russe au niveau des processus migratoires. Par exemple, l'Allemagne a connu...
Ça veut dire qu'elle va, puisqu'elle va les connaître pour la première fois, elle va changer profondément.
Elle changera, mais pas au point, disons, d'être comme la France en perpétuel changement, pourrait-on dire. La France, depuis les années 50, connaît des vagues migratoires, notamment à la suite de la décolonisation, on le sait, depuis les années 60, en provenance d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne ou de la Méditerranée, qui progressivement, de manière continue, lente et sûre, ont progressivement, on le sait, modifié le paysage culturel français depuis maintenant un demi-siècle. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, hein, qui a connu tout d'un coup, en 1992 par exemple, la vague de réfugiés venant des Balkans. Mais d'un coup, comme elle a connu d'un coup la vague de réfugiés venant de Russie, en particulier par exemple de Juifs russes qui sont venus s'établir en Allemagne. Elle a connu d'un coup comme ça, et comme elle le voit, on le voit aujourd'hui, une vague immédiate, disons, de réfugiés venant de la Méditerranée, de la Syrie et de l'Irak.
Quand on regarde ces arrivées importantes en France, il ne faut quand même pas se faire d'illusions. Ça ne s'est pas bien passé en France. Quand on parle des rapatriés d'Algérie, quand on parle, et c'est à vous que j'en parle, pardon, mais vous savez mille fois mieux que nous, mais il faut le rappeler, les rapatriés, franchement, ça a été une espèce de catastrophe. Les harkis, j'ose même pas, pas pour les Français, pas bien accueillis. Les harkis, je n'en parle même pas. Les réfugiés espagnols, on les a un peu parqués dans des endroits, des baraquements dans lesquels d'ailleurs on a mis les harkis quelques années plus tard. Donc franchement, à Rivesaltes par exemple, oui. Donc on ne peut pas dire non plus que les Français aient l'habitude d'ouvrir les bras et d'accueillir avec beaucoup de générosité. Il y a les mots, la patrie des droits de l'homme, et puis après dans la réalité, c'est pas terrible.
Ça a été difficile aussi pour les Italiens.
Oui, aussi pour les Italiens.
À la fin du 19e siècle.
Ou les Polonais qui ont été renvoyés dans des trains aussi.
Ça a été difficile pour les Polonais dans les années 30. Ça a été difficile pour les Républicains espagnols en 1939.
Exact.
Ce qui ne les a pas empêchés d'ailleurs de se retrouver 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard dans la Résistance. Il y a beaucoup de Républicains espagnols qui étaient dans la Résistance et qui sont rentrés les premiers dans Paris.
Sans recul.
En 1944. Robert Ballinter, la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça a été difficile pour les rapatriés qui ne se considéraient pas comme des réfugiés. Hein. Ils étaient français, bien entendu, mais de facto étaient effectivement des réfugiés, bien sûr. Un million de personnes.
Oui, mais vous dites que ça a été difficile pour les réfugiés. Mais est-ce que c'était aussi difficile pour les Français à l'époque que ça a l'air de se présenter aujourd'hui?
Dans les années 60, ça paraissait difficile, mais en fait, c'était les 30 glorieuses. Il y avait le plein emploi. Donc, c'était difficile.
Je pensais plutôt aux Polonais, aux Italiens, c'est-à-dire aux...
Ça a été difficile, il y avait des poussées de racisme énormes, de xénophobie et d'antisémitisme, on l'a oublié aujourd'hui, mais lorsque l'affaire Dreyfus éclate, on est dans une grande période, disons, de montée du racisme en France. Les années 30, par exemple, la crise économique des années 30 a été absolument terrible en matière de racisme, avec des manifestations de rue extrêmement violentes contre les métèques. Hein, c'était le grand mot d'ordre de l'extrême droite à l'époque, abat les métèques, bon, qui était le mot d'ordre central d'ailleurs de manifestants dans les années 30, 34, 36, etc.
Mais dans les années 50, je me souviens, moi qui étais gamin, que encore à l'école, les Italiens, c'était des Rital et on se demandait ce qu'ils venaient faire sur les bancs de l'école.
Mais in fine, quand même, tout ce beau monde s'est quand même intégré dans la société française et a donné des élites, des intellectuels, des artistes, des peintres, des chefs d'entreprise, bien entendu. Ça a pris du temps, 2, 3, 4 générations, même quelquefois. Mais c'est le processus qu'on qualifie d'intégration-assimilation à la française. C'est-à-dire que ça se passe effectivement de manière heurtée. Et non pas de manière consensuelle, de manière douce, mais de manière heurtée. Parce que ça renvoie peut-être, c'est mon opinion, à la nature même du modèle français, qui est un modèle très assimilationniste, très républicain, très jacobin, et qui, précisément, fait peu de place dans un premier temps dans l'espace public aux différences. Il y a peu de place laissée aux différences, donc il faut absolument accepter ou s'intégrer à un modèle dominant. Et progressivement, que ce soit pour les Arméniens, les Juifs d'Europe centrale, les Italiens ou les Algériens qui sont venus après, eh bien progressivement, ils s'intègrent, ils apprennent la langue française, bien sûr, tout en conservant dans l'espace privé leurs pratiques personnelles.
Benjamin Stora est l'invité du Club de la Presse d'Europe 1. On marque une pause et on revient tout de suite.
Pour réagir au Club de la Presse d'Europe 1, hashtag E1Soir.
Le Club de la Presse d'Europe 1.
Je suis encore avec vous, Nicolas Poincaré.
Et avec l'historien Benjamin Stora, qui est le président du Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris, face à Arlette Chabot, Olivier Duhamel et Philippe Gildas. C'est intéressant ce qui se passe, Benjamin Stora, en ce moment. Le regard des gens sur le phénomène des réfugiés, des clandestins, est en train de changer. On avait ce qu'on appelait la jungle à Calais, avec près d'un millier de personnes qui dorment dans l'indifférence générale. On avait plus de 500 migrants à Paris qui dorment sur les quais, notamment au niveau du pont d'Austerlitz. Et puis d'un seul coup, on en voit qui arrivent d'Allemagne, qui sont reçus, on leur offre des fruits, on leur offre des vêtements, on les photographie, on les applaudit à Munich. Qu'est-ce qui se passe dans l'opinion, d'après vous ?
Dans l'opinion européenne ou l'opinion française ?
Les deux.
Dans l'opinion française, je dirais que le regard change doucement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise à Paris, au musée d'immigration, samedi, toute la journée, toute une série d'initiatives qui portent pour thème d'ailleurs inverser le regard, tenter d'inverser ce regard qu'on porte sur ce qu'on a appelé longtemps les migrants, qu'on appelle aujourd'hui justement les réfugiés. Donc ce regard change. Il change, mais doucement, parce que il y a quand même beaucoup de peur et d'angoisse qui existent dans la société française autour des questions liées à l'immigration, les peurs qu'on sait sur le plan social, sur le plan économique, avec 4 millions de chômeurs, c'est pas du tout simple d'affronter la réalité migratoire. Il y a aussi les peurs identitaires qui tiennent, disons, à cette angoisse de voir, vous le disiez tout à l'heure, enfin les questions étaient soulevées sur est-ce que la France peut changer. Je pense que ce qui est sous-jacent derrière cette question, c'est le problème de ce qu'on a appelé, entre guillemets, l'identité nationale, avec tous les débats qui ont eu lieu. Donc il y a toute une série de peurs et d'angoisses qui se sont installées durablement dans la société française depuis maintenant de nombreuses années. Et le choc de ce qui se passe en ce moment avec cette guerre en Syrie, sur laquelle j'aimerais qu'on dise deux mots quand même, parce que c'est quand même ça l'origine du drame, le choc syrien et irakien, c'est-à-dire la dislocation en fait des États-nations et qui provoque le départ de centaines de milliers, voire de millions de personnes aujourd'hui en Méditerranée ou sur les routes, est un choc terrible. Et on est bien obligé, effectivement, d'avoir un regard qui est plus davantage dans le registre de l'humanité. Et c'est en particulier, on l'a dit, la photo de l'enfant mort sur la plage, et puis aussi d'autres images qui se sont succédées ces derniers temps. Donc, le regard sur la migration en France, quand même depuis une vingtaine d'années, selon moi, était un regard très très négatif, qui s'est installé de manière très négative depuis une vingtaine d'années. Mais il commence à changer aujourd'hui parce que nous sommes un pays à l'intérieur du monde et non pas à l'extérieur et comme repliés sur nous-mêmes.
Les sondages montrent qu'en gros, c'est moitié-moitié, quoi. 50% des Français qui sont contre l'accueil des réfugiés syriens, 50% qui seraient plutôt pour. L'opinion est en train de basculer un petit peu ?
Un petit peu, je dirais.
Mais est-ce qu'on ne peut pas, de votre point de vue en tout cas, craindre que ce ne soit que très passager ? Parce que, d'abord, c'est sous le choc d'une extrême émotion à la suite d'une image. Ensuite, parce que, incontestablement, depuis cette image et les jours qui ont suivi, la quasi-totalité des médias très profondément changé sa manière d'opérer. C'est-à-dire qu'avant, c'était un sujet qui était traité relativement à minima et de façon très neutre. Et maintenant, c'est un sujet qui est extrêmement présent et traité de façon très très favorable aux réfugiés. Si vous regardez les journaux télévisés, TF1 compris et tout, le basculement est très très impressionnant. Et ça, par définition, ça ne va pas durer. Autrement dit, est-ce que c'est éphémère ou est-ce que c'est durable, ou que faire pour que ce ne soit pas qu'éphémère ?
Ça, c'est une question très difficile, parce que pour que ça ne soit pas éphémère, il faut qu'il y ait à la fois un relais politique, un relais culturel, institutionnel, universitaire, médiatique, journalistique. C'est-à-dire qu'on s'installe dans la durée. Je crois qu'on, quand même, on s'installe dans la durée, parce que cette crise migratoire est profonde. On en a déjà parlé ici, sur, dans ce même studio, avec Nicolas Poincaré, avec vous, Olivier Duhamel et d'autres. Il y a plusieurs mois déjà, on avait déjà pris ce sujet à bras-le-corps, et on a maintenant la sensation que c'est un véritable tournant de la situation internationale qui s'opère devant nos yeux, et en particulier en Méditerranée, avec l'effondrement des États. L'effondrement des États syriens, irakiens, libyens, sont des États effondrés. De sorte que moi je suis beaucoup plus, davantage partisan d'une conférence méditerranéenne que d'une conférence mondiale sur la question de la migration.
Par exemple.
Pourquoi pas une conférence méditerranéenne ? Parce que c'est en Méditerranée qu'aujourd'hui la question est la plus grave, la plus terrible, et que la plupart des migrants sont d'origine méditerranéenne. Donc je crois que la France, maintenant, et les Français prennent progressivement conscience que l'arrivée de ces migrants, que l'effondrement de ces États, c'est quelque chose qui s'installe dans le long terme, dans la durée.
Ah, vous pensez qu'il n'y aura pas de reconstruction d'un État en Syrie ou en Irak ?
Je ne pense pas qu'il n'y aura pas, effectivement, je ne pense pas qu'on trouvera une solution politique très facilement en Syrie, très facilement en Irak, très facilement en Libye. Ce sera très difficile, parce que ce sont des États-nations qui s'effondrent, parce que ce sont des dictatures qui s'effondrent, une poussée islamiste considérable, on le sait, et les révolutions arabes, qu'on a appelées révolutions arabes, sont quelque part des révolutions manquées, puisqu'elles n'ont pas abouti à la mise en place de la démocratie politique.
Sauf une en Tunisie.
Très fragile, la Tunisie. Vous savez, il y a 400 000 réfugiés en Tunisie. Ça, on ne le sait pas en France. C'est gigantesque. C'est un pays qui est fragilisé par l'arrivée des réfugiés. Venant de Libye et de l'Afrique subsaharienne. On ne le dit pas aussi, on ne le sait pas suffisamment. C'est l'arrivée aussi massive de réfugiés dans d'autres pays comme l'Algérie. On ne le sait pas. Il y a beaucoup de réfugiés aujourd'hui syriens, à Béjaïa, à Alger, dans la banlieue, etc. Vous avez des milliers de réfugiés aujourd'hui. Au Maroc, vous avez aussi beaucoup de gens qui arrivent, des réfugiés entre guillemets, des migrants économiques cette fois-ci, on reviendra sur ces questions, subsahariens. C'est-à-dire que tous ces pays sont déstabilisés. Donc on est rentré dans une nouvelle période. C'est-à-dire qu'une nouvelle carte se dessine sous nos yeux et on s'installe dans la durée. Ou bien on considère que c'est une crise migratoire passagère, bon, avec quelques milliers de migrants qui suffira d'intégrer par des quotas, etc. Ou bien, au contraire, il faut préparer les opinions publiques au fait que nous sommes entrés dans un monde nouveau où il va falloir beaucoup de temps et d'années pour parvenir à des reconstructions d'États et redéfinir des frontières nationales. Parce que c'est les frontières qui sont entièrement à redéfinir, hein, y compris un petit pays qui est en pleine crise, qui est le Liban, hein, qui est surchargé de réfugiés. Le Liban, qui est un petit pays, on le sait, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés sur son sol. La Jordanie, qui accueille des centaines de milliers de réfugiés sur son sol. C'est considérable. Les États sont extrêmement fragilisés par cette situation.
C'est à peu près, si on le rapporte en population, Libye et Jordanie, c'est à peu près comme si nous, on en accueillait près de 10 millions.
À peu près, oui. C'est-à-dire comme si la France était confrontée à un apport migratoire de plusieurs millions de personnes en l'espace de 2 ans.
Mais ça veut dire que ceux qui arrivent sont là, de toute façon, pour longtemps. C'est-à-dire qu'il a le temps de reconstruire des États, enfin, de faire la paix, de trouver des solutions politiques, de reconstruire des États. Ils ne sont pas de passage.
Non, ils ne sont pas de passage parce que l'effondrement de l'État en Libye, c'est profond. C'est-à-dire que la Libye a vécu sous un régime, sous une dictature pendant près de 40 ans. L'effondrement de l'État va prendre, enfin, la reconstruction, pardon, de l'État va prendre énormément de temps. On est aujourd'hui dans un stade où ce sont des milices qui s'affrontent, avec Daesh qui est aux portes du pouvoir en Libye, bien sûr. Ça, il faut le savoir aussi, c'est très grave ce qui se passe dans ce pays. Et donc, on est dans des situations où on s'installe dans des situations de longue durée.
Mais puisque vous êtes vraiment le spécialiste de l'histoire de l'immigration, première question très brève, la réponse. Est-ce que le président de la République qui vous a mis à la tête de ce conseil d'orientation sur l'immigration,
le premier ministre,
il était derrière, j'espère. Est-ce qu'il vous a convoqué? Est-ce qu'il vous a interrogé? Est-ce qu'il vous voit tous les jours? Ça vaudrait la peine.
Non, il ne m'a pas convoqué, on ne se le voit pas.
Parce que ma deuxième question est, on parlait tout à l'heure des vagues précédentes depuis 70 ans. Hein. On sait bien que très très peu de ces migrants de l'époque sont repartis chez eux. Ils ont été assimilés chez nous. Ils n'ont pas changé de nom, c'est tout.
C'est vrai que la plupart de ceux qu'on appelle... vous savez, la différence, enfin, bon, pour commencer ce débat tout de suite, entre la migration, ce qu'on appelle la migration volontaire, et puis la migration forcée. C'est une distinction qui avait été introduite par la sociologie politique il y a une cinquantaine d'années environ, par les historiens et les sociologues qui ont eu l'habitude de jongler, disons, avec ce type de catégorie. Mais ils ont aussi l'habitude de dire que la frontière entre ces deux catégories est très fragile, elle est quasiment inexistante, entre celui qui décide de partir pour des motifs économiques et celui qui part pour des motifs de persécution politique. C'est pratiquement, vous savez, c'est très difficile. La plupart de ceux qui sont dans des situations misérables sont souvent dans des pays de régimes dictatoriaux. Enfin voilà, c'est assez classique dans l'analyse, c'est assez simple. De sorte qu'on est dans une situation où ceux qui s'en vont effectivement partent sans retour. C'est-à-dire qu'ils partent en emportant avec eux dans leur cœur et dans leur tête leur pays, leur village, leur famille, qu'ils ne les quitteront jamais tout au long de leur vie jusqu'à leur mort. Et ça, il faut le savoir. Et on ne peut pas leur reprocher cela. C'est-à-dire de partir en emportant avec soi tous ces souvenirs et toute la mémoire qui est la leur, qui est celle de leurs ancêtres, de leurs parents, et qui s'exprime notamment par la préservation de la langue. Bon. Et je ne pense pas que jamais on pourra leur reprocher ça, parce que de toute façon, ils vivront avec ça. Mais en même temps, ils savent qu'ils ne reviendront pas. Parce que quelquefois, la situation s'éternise, parce qu'ils n'ont pas le temps d'attendre l'établissement de la démocratie politique. Vous savez, quand vous vivez dans des pays où règne l'anarchie, les milices, la terreur, bon, je pense à des pays y compris comme l'Érythrée, ou dans des pays de dictature terrible, eh bien, on est dans des situations où ceux qui partent, ne le font pas de gaieté de cœur. C'est-à-dire qu'ils sont, ils savent que, dans le fond, c'est très difficile, que l'exil est vécu comme un arrachement personnel, individuel, personnel terrible, mais qu'en même temps, ils n'ont pas le temps d'attendre l'établissement de la démocratie politique. Ils ne peuvent pas attendre.
Benjamin Stora, historien, invité ce soir du Club de la Presse d'Europe 1. On revient après une courte pause.
Suivez le Club de la Presse d'Europe 1 en vidéo
sur europe1.fr.
Le Club de la Presse d'Europe 1, 19h-20h, Nicolas Poincaré.
En direct jusqu'à 20h, le Club de la Presse d'Europe 1 avec l'historien Benjamin Stora face à Arlette Chabot, Olivier Duhamel et Philippe Gildas. Benjamin Stora, on a en France un droit d'asile, on a des procédures, des méthodes, on a l'OFPRA avec des fonctionnaires qui accordent ou pas le statut de réfugié, qui donnent des aides financières en attendant que ce statut soit donné, qui logent dans ce qu'on appelle les CADA, les gens. Est-ce que tout ça était déjà sous-dimensionné avant la crise qu'on connaît maintenant? Demain, ça va être pire. Est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles choses? Est-ce qu'on peut continuer à vivre avec ce vieil outil qui va être vite dépassé?
Non, vous avez raison. Je pense qu'il faut moderniser cet outil parce qu'avec l'afflux de réfugiés, de migrants économiques ou autres, on sera obligé effectivement de... pas de modifier peut-être la question des règles du droit d'asile, mais au moins de donner davantage de moyens au fonctionnement de cette institution. Mais ce que je voudrais vous dire, puisque vous évoquez la question du droit d'asile, c'est que la plupart de ceux qu'on appelle les immigrés en France entrent dans ce pays en rapport avec un droit et non pas pour travailler, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Près de 80% de ceux qu'on appelle des immigrés, ça je vous renvoie à toute une série de travaux, hein, de démographes, de sociologues, comme ceux de François Héran par exemple, nous expliquent très bien que la plupart de ceux qui entrent dans ce pays le font en fonction de droits, c'est-à-dire le droit d'asile, le droit au regroupement familial, le droit de pouvoir travailler, enfin d'étudier pardon, en France, c'est le cas des étudiants étrangers, et ce qui fait que si on additionne tous ces droits qui existent, parce que la France est signataire de toute une série de conventions internationales à l'ONU, eh bien, 80% de ceux qui pénètrent, disons, sur le territoire français aujourd'hui depuis plusieurs années, 80% le sont en fonction de ces droits qui existent, disons, et qui ont été votés par l'Assemblée nationale et aussi de droits ratifiés au plan international. Donc, la question du droit d'asile, c'est un droit, disons, que la France, naturellement, protège et promeut aussi dans son pays, mais qui doit faire l'objet de discussions au plan européen et au plan international. On peut pas le modifier comme cela, hein, je veux dire, parce que la France, quand même, fait partie du monde, comme je disais tout à l'heure. Elle peut pas décider...
La distinction entre réfugiés politiques et réfugiés de guerre, subtil, ne repose sur rien, est un coup.
C'est Nicolas Sarkozy hein, qui propose
oui,
ça.
Oui, j'allais le dire dans le Figaro ce matin. Il dit qu'il faut distinguer les premiers, c'est la tradition, on les garde, les réfugiés dont la situation est évidemment liée à la guerre ont vocation à rentrer chez eux. Donc on leur donne un statut spécial.
Vous savez, tout ce qui permet de toute façon d'avancer, de réfléchir, moi je suis tout à fait d'accord. Pourquoi pas, à la limite, de nouveaux statuts, réfléchir à de nouvelles choses. Je crois qu'il faut fermer aucune porte. Dans la mesure où nous vivons une situation nouvelle, dans la mesure où nous sommes confrontés à un tournant de la situation internationale, et notamment méditerranéenne, j'y insiste. Alors, pourquoi pas réfléchir à toute une série de statuts différents en fonction de ceux qui veulent rentrer en France aujourd'hui. Mais la question, c'est la difficulté à établir ce statut. Parce que statut de réfugié, c'est le droit d'asile, bien entendu, qui existe depuis toujours en France. Réfugié de guerre, mais vous savez, une guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas véritablement quand est-ce qu'elle se termine. Hein. Et quand est-ce que, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous savez, c'est des guerres sans fin quand même. Hein. La guerre commencée en Irak, est-elle vraiment finie aujourd'hui hein. Vous oui, savez, avec l'intervention américaine en Irak, je ne sais pas si elle est vraiment terminée aujourd'hui, vous voyez. Donc ça fait 15 ans quand même que ça dure.
Des propositions de Nicolas Sarkozy, on peut faire une interprétation critiques comme des propositions très à droite, on peut aussi soutenir le contraire si on réfléchit bien. Parce que le droit d'asile au sens strict, en tout cas dans notre Constitution par exemple, c'est pour les personnes persécutées en raison de leur action pour la liberté. Si vous faites de ça une interprétation très stricte, la plupart des réfugiés syriens ou irakiens ou libyens ne relèvent pas du droit d'asile. C'est pas au nom d'une action pour la liberté. C'est parce qu'ils subissent une guerre civile terrifiante, des massacres, des bombardements. Donc, en soi, il est possible, je dis juste dans la réflexion, il est possible de dire, mais si on doit prendre en compte que ces gens-là, il faut aussi les accueillir. Que c'est la moindre des choses de les accueillir. Que à leur place, on ferait exactement comme eux. On n'aurait qu'une idée, c'est d'aller survivre avec nos enfants, nos parents, que sais-je encore, là où on peut survivre. L'idée de leur dire, eh bien, construisons-leur un statut pour les accueillir n'est pas forcément une idée réactionnaire.
Oui, mais moi, c'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire tout ce qui permet de réfléchir à un élargissement des droits et une protection de ceux qui fuient les persécutions, je suis tout à fait pour, moi. Je ne suis pas pour écarter d'entrée de jeu toutes les propositions aujourd'hui qui visent à redéfinir ou à définir davantage de droits par rapport à ceux qu'on appelle les réfugiés, les exilés, les persécutés, les réprouvés, ceux qui fuient aujourd'hui la misère et la guerre et la terreur et la dictature. Bien sûr, il faut, je crois, prendre à bras le corps ces questions-là. Et peut-être que le droit d'asile aujourd'hui ne suffit pas, peut-être qu'il faut élargir davantage la notion. Mais le grand problème, on le sait tous aujourd'hui, c'est que ce type de discussion très souvent masque une autre discussion. Plus politique celle-là, et j'allais dire plus en rapport avec l'état d'esprit de l'opinion aujourd'hui, c'est-à-dire faire la distinction entre les migrants économiques et puis les migrants, disons, venant de pays arabes et de pays musulmans. Je veux dire que c'est ça, disons, qu'on n'ose pas introduire dans le débat politique public, je parle des importants partis politiques, bien entendu, et c'est le cas naturellement des Républicains. Donc, une discussion peut en cacher une autre.
Hein, musulmans. Il y a des gens qui disent on ne peut pas les accueillir. Il y en a qui le disent même ouvertement, on va prendre les chrétiens et pas les musulmans. Et quand on greffe là-dessus cette peur de l'islam, pourquoi est-ce qu'aucun homme politique ne vient dire un peu plus fortement, mais enfin écoutez, si ces gens-là étaient islamistes, ils s'engageraient dans Daesh, ils ne chercheraient pas à venir dans un pays laïque. Pourquoi on n'entend pas ces voix-là?
Des élus.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Si on peut infiltrer sur 100 000, c'est pour ça que tu vas dire que les 99 999.
J'ai entendu un maire le dire.
Ouais, enfin bon.
On ne peut pas à la fois, dans les discours, dans les représentations, dans les déclarations, combattre, dire qu'on combat l'intégrisme, l'obscurantisme religieux, Daesh, etc., et en même temps, refuser de tendre la main à ceux qui fuient cette barbarie et cette dictature par milliers, par centaines de milliers. Il n'y a pas seulement que les minorités chrétiennes ou yézidis, bien entendu, mais y compris ceux qui sont des sunnites, voire même des chiites aussi, et j'allais presque dire surtout des chiites, qui fuient cette barbarie, ce système obscurantiste, qui le refuse. Et, par parenthèse, c'est un tournant, c'est pas l'objet de la discussion ce soir, parce qu'on ne peut pas ouvrir toutes les discussions, mais c'est un tournant énorme dans l'histoire du monde arabe et musulman, que ces déplacements de 4 millions de personnes d'un pays musulman et arabe qui décident de refuser la dictature et l'obscurantisme religieux, ça ne s'est jamais produit. À ce rythme, à cette ampleur extraordinaire, quand on parle de processus de sécularisation en cours dans l'islam, le voilà le processus. Il est sous nos yeux. Parce que nous, comme Européens, on s'intéresse qu'aux problèmes migratoires. Accueil, assimilation, intégration, discussion, identité. Mais si on veut bien élargir le point de vue, et permettez-moi de l'élargir un tout petit peu, parce qu'il faut sortir du provincialisme français aussi, eh bien ça veut dire que sous nos yeux, on assiste à un redécoupage non seulement des États et des nations dans le monde arabe aujourd'hui, mais à la mise en branle pratiquement avec les pieds d'un processus dit de sécularisation sur le fait que la religion ne doit pas dicter les comportements familiaux, personnels. C'est extraordinaire. Ça ne s'est jamais produit à une telle échelle aujourd'hui dans le monde arabe. C'est une parenthèse hein, que je fais là, parce que très souvent, malheureusement, on ne veut observer et ne regarder qu'un seul aspect, c'est-à-dire l'arrivée de ces populations. Mais regardons ce qui se passe en amont. Parce que ce qui se passe en amont, c'est, encore une fois, c'est aussi un tournant. Un tournant, j'allais presque dire, politico-culturel énorme hein, dans l'histoire du monde arabe et musulman comme conséquence de ces révolutions arabes qui ont démarré en 2011, qui pour l'instant n'ont pas abouti, mais quelque part qui se poursuivent dans le fait de voter avec ses pieds. Voter entre guillemets avec ses pieds, c'est-à-dire de quitter, de mettre en accusation à la fois les systèmes de dictature et les systèmes de l'obscurantisme religieux. C'est un tournant énorme.
Dans ce master, il y a deux choses justement qu'on entend. Hein. Il y a pourquoi des pays musulmans, arabes, on vise le Qatar, l'Arabie Saoudite, justement, n'accueillent pas chez eux et préfèrent payer, entre guillemets, ou aider les États. Non mais je pose la question, c'est qu'est-ce qu'on entend? Il y a deux choses qu'on entend en France, c'est ça. Pourquoi ils ne prennent pas leur part du fardeau, comme dirait quelqu'un, des réfugiés? Première question. Et deuxième question, et interrogation de beaucoup de Français, c'est alors nous, on n'a déjà pas réussi à la troisième génération, à intégrer une partie des enfants d'immigrés qui sont français, évidemment nés en France, et qui vont dans nos écoles. Alors comment on va réussir cette intégration de ceux qui vont arriver? C'est les deux questions qu'on entend le plus.
Bah, écoutez, là, encore une fois, il y a beaucoup de dossiers qu'on ouvre tout d'un coup brusquement, parce que là, on ouvre le dossier dit de l'intégration pour les enfants de la troisième génération, donc, alors qu'on est là ce soir pour discuter des réfugiés. Donc vous voyez,
c'est un argument qu'on nous pose.
C'est difficile.
On n'a pas su. Oui, ils sont là, ils sont français.
Oui, mais en tant qu'historien, je suis obligé de classer, de classifier,
alors, ouvrons,
de hiérarchiser,
un tiroir,
de complexifier les choses.
C'est une question légitime quand on nous dit qu'on va devoir accueillir beaucoup plus de réfugiés que d'habitude.
Mais c'est pas beaucoup plus. Vous savez, les chiffres sont ridicules.
Quand on dit 24 000, c'est beaucoup plus.
On
va revenir sur les chiffres.
Personne ne croit que ce sera que 24 000.
La question de l'intégration, elle se pose tout de même.
Oui, elle se pose bien sûr. Mais je le disais tout à l'heure, en France, la tradition politico-culturelle, c'est celle effectivement d'une intégration dans la conflictualité, non pas dans le consensus. C'est une histoire française très complexe et aussi compliquée parce que ce sont des immigrations en provenance d'une histoire particulière post-coloniale qui complique encore davantage les choses. Je ne peux pas ouvrir tous les tiroirs en même temps. Donc on a donc effectivement à régler en France ce problème-là. Et on a l'obligation de régler dans le même temps l'arrivée de migrants venant effectivement en Méditerranée, deux pays arabes enfin, qui ont effectivement connu cette effervescence qu'on a décrite très rapidement.
Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que la réponse, ça veut dire que peut-être il y avait une difficulté particulière à intégrer des enfants issus de nos colonies, au sens le plus fort du terme, les plus proches, et parlons clair, par exemple, les fils ou petits-fils d'Algériens, parce que l'Algérie était française, qu'il y a cette meurtrissure, etc. Et Dieu sait, vous avez fait des beaux livres là-dessus. Et que peut-être c'est moins difficile, paradoxalement, avec des gens où on n'a pas ce passé-là.
Oui, on peut évidemment aussi avoir cette perception de l'histoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contentieux historique particulier que la France entretient avec le reste du monde arabe. Au contraire, il y a une vieille tradition de la politique arabe de la France au Liban et en Syrie notamment, avec les systèmes de protectorat. N'oublions pas aussi l'influence qu'a exercée la France sur la question du catholicisme, de la chrétienté, du christianisme en Orient, ce qu'on appelle les chrétiens d'Orient. Et la France a joué un très très grand rôle tout au long du 19e et 20e siècle. Donc il y a par conséquent, il n'y a pas de contentieux à ce niveau-là. Et ceux qui viennent et se dirigent vers la France aujourd'hui, par exemple les Syriens ou les Irakiens, ont une image de la France qui n'est pas forcément celle des Algériens que vous avez évoqué à l'instant. Parce qu'il n'y avait pas, disons, ce contentieux qui pouvait exister. Et il faut, en France, qu'on ait aussi la connaissance de cela. Moi, je plaide pour cela. Si vous m'invitez, c'est pour ça. C'est pour essayer d'éclairer cela. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une situation où, malheureusement, en France, il y a la confusion généralisée. Un Syrien, c'est pareil qu'un Algérien, qui est pareil qu'un Libanais, qui est pareil qu'un Tunisien, etc. Or, c'est pas tout à fait pareil. Les histoires, effectivement, sont différentes. Le rapport à la langue n'est pas le même. Le rapport à la langue française n'est pas le même, bien sûr. Même si au Liban, bien sûr, il y a eu des grandes familles libanaises ou syriennes qui ont continué pendant de très nombreuses années à parler le français. Mais c'est moins le cas pour la plupart, disons, des populations de ces pays. Donc on a effectivement des différenciations culturelles. Et il faut aussi qu'on apprenne à les gérer, ces différences culturelles, de gens venant d'ailleurs. Parce que Si on n'apprend pas à gérer tout cela sur le plan des différences culturelles, des différences et du comparatisme historique, le risque, effectivement, de tout mélanger est très grand. Et donc, le regard s'installe de manière extraordinairement négative.
Le Club de la Presse d'Europe 1 avec Benjamin Stora revient juste après une dernière pause.
Suivez le Club de la Presse d'Europe 1 en vidéo sur europe1.fr.
Le Club de la Presse d'Europe 1.
Avec Nicolas Poincaré jusqu'à 20h.
Et avec Benjamin Stora, qui est historien, spécialiste de l'immigration et président du musée de l'histoire de l'immigration à Paris. À l'instant, Benjamin Stora, on apprend que Barack Obama, depuis la Maison-Blanche, annonce que les États-Unis sont prêts à accueillir 10 000 réfugiés syriens dans l'année qui va venir. 10 000 pour les États-Unis, c'est beaucoup ou c'est ridicule, comme vous disiez tout à l'heure ?
Beaucoup, évidemment. Mais c'est quand même important le fait que les États-Unis, qui sont très loin du théâtre du conflit méditerranéen aujourd'hui, prennent position. Ça veut dire qu'il s'agit d'un problème mondial et pas simplement d'un problème européen, mais c'est un problème international. C'est pour ça que la déclaration est importante.
Alors sur ce terme que vous avez employé de ridicule en parlant des chiffres actuels, vous parliez des 5 000 que la France devait accepter dans un premier temps, qui viennent de passer à 30 000 et à l'intérieur d'un... 24 plus 5, ce qui fait pratiquement 30 000. Et on sait que c'est maintenant un dispositif contraignant qui fait que à l'avenir, plus les réfugiés arriveront, plus la France devra en prendre. Est-ce que ça va rester des chiffres ridicules ou est-ce qu'il y a un vrai risque qu'on dépasse ces chiffres ?
Tout est possible, vous savez. Moi, je dis tout est ouvert sur cette question-là. L'ampleur de la crise est telle. Je disais tout à l'heure, vous savez, il y a 4 millions de Syriens qui sont partis. Il y a 2 millions de Syriens en Turquie. Je ne pense pas que les 2 millions de Syriens qui stationnent pour l'instant en Turquie dans des conditions très dures vont y rester. Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'ils seront eux aussi amenés à bouger. Donc, obligatoirement, tous les chiffres qu'on avance aujourd'hui risquent effectivement d'être dépassés. On en rediscutera encore une fois, si vous m'invitez, dans 6 mois ou dans 3 mois, parce que ça risque d'être dépassé. Donc, on est dans une situation nouvelle, une situation très, très difficile et fluctuante, bien entendu.
Est-ce que je peux vous poser une question sur qu'est-ce qui vous semble le plus efficace, puisqu'on cherche les moyens de... ce que ce soit pas éphémère, les évolutions positives dans l'opinion. Ce matin, vous avez un quotidien qui s'appelle Libération, qui a publié à la une un appel avec d'autres journaux européens et qui est un appel qui prend position sur le fond et qui dit il faut faire ci et ça et accueillir, échanger telle règle et tout. Soir, vous avez un autre journal qui, lui, n'a lancé aucun appel de quel que soit, mais qui a titré en très gros « L'Europe va accueillir moins de 10% des réfugiés syriens ». Qu'est-ce qui est le plus efficace ? L'appel de militants de Libé ou le titre assez choc quand même du Monde ?
C'est très difficile à établir une hiérarchisation au niveau de ce qui se passe, d'autant qu'on vit dans un monde qui est celui de l'instantanéité. C'est-à-dire que les appels sont effacés par les images, qui sont eux-mêmes effacés par des analyses, qui sont eux-mêmes effacés par des tribunes, qui sont eux-mêmes effacés par des émissions de radio, qui eux-mêmes sont filmées et diffusées sur le net. Donc tout ça va dans une vitesse extraordinaire, mais l'important c'est quand même l'impact. C'est le fait qu'aujourd'hui, l'opinion publique européenne et française prend conscience qu'une nouvelle situation a émergé aujourd'hui. Une nouvelle dimension incroyable de migration de population est devant nous. Et la France, progressivement, prend conscience de cela. Et peut-être que la France prend conscience un peu en retard de cette situation-là, parce qu'on l'avait évoqué déjà ici il y a 6 mois.
Par rapport à l'Allemagne, mais on avance par rapport à la Slovaquie et la Pologne.
C'est sûr, mais enfin, la France, c'est pas la Slovaquie quand même. C'est un pays de 66 millions d'habitants, ce qui n'est pas le cas de la Slovaquie, qui est un petit pays de 5 millions d'habitants. Donc par rapport à l'Allemagne, là, je pense que le choc des images, c'est aussi le choc des images des Allemands recevant les réfugiés. Qui aussi interroge l'opinion française.
Le son moral donné par l'Allemagne peut impressionner les Français.
Peut-être pas impressionner, mais les surprendre. Parce que les Allemands, on le sait, ont un rapport à leur passé très sombre, très difficile. Et la France, bien sûr, pouvait, elle, dire qu'elle était dans un passé, dans une histoire qui était celle des Lumières, de l'accueil de l'autre, de l'hospitalité. Sa tradition historique étant celle de la patrie, de la défense des droits de l'homme. Quelle surprise que de voir aujourd'hui les Allemands accueillir ces réfugiés syriens. C'est une grande surprise pour une grande partie des Français qui connaissaient dans le fond assez mal l'histoire de l'Allemagne et des réfugiés. Parce que l'Allemagne a une tradition d'accueil des réfugiés.
Je crois que c'est le journal Le Monde qui, il y a 5 ou 6 ans, vous avez qualifié d'icône du vivre ensemble. Et j'avais trouvé à l'époque que ça résumait très bien tout ce que vous avez écrit. Il faisait allusion tout à l'heure sur l'Algérie, vous qui êtes né là-bas et qui, très jeune, ado, avait découvert que finalement musulmans et juifs, ça avait du mal à s'entendre alors que ça avait les mêmes musiques. hein, les mêmes sons, etc. Et donc, vous, l'icône, c'est icône du vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on va faire?
C'est la même question, en fait.
C'est pour ça que, justement, j'ai failli le couper tout à l'heure, parce que avant de voir ce qu'on
allait la poser. Le travail d'éducation est fondamental. Le travail de circulation des informations est fondamental. Les émissions comme celle-là, c'est fondamental. C'est-à-dire d'essayer de comprendre l'autre. D'essayer absolument de savoir quelle est l'histoire des autres et de ne pas rester enfermé, disons, je l'ai déjà dit, je me répète, dans une sorte de provincialisme étroit de la France d'aujourd'hui. Il faut savoir et s'ouvrir à l'autre. Parce que la France, c'est pas simplement une grande tradition historique. La France est aussi la conquête de nouveaux marchés. C'est aussi une puissance économique. Et si elle veut jouer son rôle dans la mondialisation économique, alors il faut qu'elle renoue avec les traditions d'accueil, connaître les langues étrangères, connaître l'histoire des pays différents et entrer par conséquent en concurrence avec toutes ces autres histoires. Parce que si elle reste simplement figée sur son passé, sur ses traditions anciennes, elle ne sera pas à même d'affronter aujourd'hui cette mondialisation économique et culturelle. Et donc moi je crois que la seule solution, pas la seule, mais une des solutions possibles, c'est la connaissance des autres, c'est de renforcer le pouvoir dans le monde éducatif qui, à mes yeux, vraiment est un immense espace de résistance culturelle au vent très mauvais qui souffle dans la société française et qui veulent nous voir ou être que dans une seule histoire, figée, éternelle, fixe, ancienne et archaïque. Ce qui est l'espace, à mon sens, de résistance culturelle, c'est celui de l'éducation. Et de l'éducation nationale qui ouvre sur une multitude d'histoires, qui ouvre sur des mondes différents, qui ouvre sur des langues étrangères différentes. Il faut aujourd'hui savoir toutes ces langues différentes pour affronter la concurrence économique et culturelle.
Mais tout à l'heure, Nicolas citait Angela Merkel, la phrase hein, « l'Allemagne va changer ». Et elle ajoute l'Allemagne va changer, il faut que ce changement soit positif et on va réussir. Moi, je n'ai pas entendu un responsable politique français porter un message qui ne soit pas un message de peur, d'inquiétude, d'angoisse, de contrainte. Personne ne dit « oui, on va accueillir et on va bien accueillir parce qu'il faut des cours de langue, il faut des profs, etc. » Et pour que cet accueil et ce changement possible en France aussi soit positif. Il faut oser le dire.
Vous savez, une nation qui n'est pas assurée sur son identité a peur. Les nations qui accueillent, dans le fond, sont celles qui sont assurées de leur identité, qui sont fortes. C'est-à-dire qu'à partir du moment de leur force, elles sont assises sur une force historique